rock, ce morceau. Son quoi les nave chachitata. C'est un air de Arbace, de l'opéra Artaxerxès de J.A. Assa.
Par contre, c'est pas des.
Alors, il y a marqué Riccardo Brocchi, Brocchi, 1698-1756.
Mais c'est pas des. Alors. Des castrés c'est pas un castré qui a
eh bien
chanté.
Non.
Qui a chanté.
Puisque les castrats n'existent plus.
Voilà.
Alors, grâce à un logiciel qui s'appelle. Enfin, une machine qui s'appelle. Le Travelling Ovidis,
oui.
À l'IRCAM en 93, 1993, il, d'après ce qu'il reste de comme écrit historique sur les voix des castrats, eh bien ils ont tenté d'en reproduire une. En prenant deux voix, celle de. Alors, ce sont des voix dans les aigus. C'est la voix de la soprano, donc une femme, Eva Malas Godlewska, et la voix d'un homme, un contre-ténor, qui s'appelle Derek Lee Ragin. Et ils ont superposé les deux voix, mis des points d'accroche. Alors. On imagine sur le logiciel, t'as la ligne enregistrée de la voix d'Eva Malas Godlewska, puis celle de Derek Liradin. Et ils ont collé des points pour les ajuster les deux voix, qu'elles se correspondent pour donner cette tessiture.
Un travail incroyable, en tout cas.
Bah, c'est à l'IRCAM que ça a été fait. L'IRCAM est une des institutions culturelles et technologiques françaises qui, elle, pour le coup, est quand même une des merveilles du monde.
Oui.
Donc.
Fada, c'est de la musique baroque.
C'est de la musique baroque. C'est donc, comme je te le disais, Riccardo, il me semble que c'est ça.
Joano de Faso.
Ouais, en même temps, il y a marqué Riccardo Brocchi, 1698-1756, comme je le disais. Donc, je ne sais pas qui est Riccardo Brocchi et qui est J. Haas, qui a écrit, enfin, c'est Haas qui a écrit l'opéra. Mais après. Les castrats. Pourquoi les castrats? Les castrats. Parce que l'Église interdisait aux femmes de chanter. L'Église catholique. Hein,
oui.
Interdisait. Enfin, non, l'Église en gros.
Oui, l'Église.
Interdisait aux femmes de chanter au sein des Églises. Donc, pour avoir ces voix aériennes quasi féminines, il y avait les enfants, les jeunes garçons.
On sait qu'ils aiment beaucoup les enfants, effectivement.
Et d'un autre côté, jusqu'au XVIIe siècle, les femmes vont être interdites de se produire sur des planches, dans des spectacles, au théâtre. Elles vont donc être remplacées par des hommes qui vont soit jouer des rôles de femmes, soit chanter. Mais pour que ces voix perdurent à l'âge adulte, il faut une petite opération. Et la meilleure opération qui a été trouvée, alors assez tôt apparemment, je ne sais pas exactement quand, mais au XVe siècle, c'est l'ablation de ce qu'on appelle le canal spermatique.
Je vais tourner l'œil.
Ce qui se situe au niveau de l'appareil génital masculin. Et qui entraîne l'atrophie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai révisé, évidemment, ça aurait fait une somme de choses à raconter absolument incroyable. Mais ça entraîne l'atrophie des testicules, ce qui entraîne une perturbation du développement hormonal. Donc tu as des hormones qui ne vont plus fonctionner, comme la testostérone, et d'autres qui vont fonctionner. Par exemple, donc cette opération qui est une opération bénigne, c'est une opération où il n'y a quasiment pas de mortalité déjà au 15e, 16e siècle. Elle est très maîtrisée. Ils savent faire ça extrêmement bien. Ces garçons proviennent principalement... Alors, ça commence à Venise. Ça commence en Italie, en fait. T'as Naples, Venise, Milan, mais surtout Venise. Et en fait, tous ces garçons proviennent d'orphelinats ou de familles pauvres qui souhaitent que leurs enfants aient une vie un peu meilleure et qui sont pris en main par les riches et l'Église. Et donc, ils subissent cette opération qui fait que ils sont également entraînés hein, dès le début, dès leur plus jeune âge, à chanter, à comprendre, à apprendre la musique. Il ne s'agit pas non plus d'avoir une jolie voix, il faut maîtriser complètement la chose. Et donc, cette opération fait qu'ils ont une tessiture dans les aigus absolument incroyable et surpuissante. Ils ont des petits soucis quand même dans la société, puisque c'est quand même un des premiers de cas de genre qui va se poser dans la société moderne.
On n'y pense pas assez, effectivement.
Puisque ce sont des hommes qui ont des voix de femmes et qui ne sont plus des vrais hommes, puisque ils ne peuvent plus procréer, ils ne peuvent pas procréer, et en même temps, est-ce qu'ils peuvent avoir une vie sociale? Certains sont homosexuels, pas tous. Il y a beaucoup de solitude aussi, parce que, dans cette histoire d'hormones, par exemple, il y a une hormone du développement qui fait que ils peuvent être très grands. Si la testostérone est bloquée, il y a d'autres hormones qui se mettent, elles, à fonctionner et qui, par exemple, vont leur faire comme des attributs de femmes. C'est-à-dire qu'ils vont développer des formes, ils vont développer des hanches, du ventre, des seins. Voilà, ils sont entre les deux, on va dire. Donc, c'est pas forcément des gens extrêmement heureux. Ceci dit, ils sont, pour certains, extrêmement bien payés. Ils vont avoir énormément de succès. Pour certains, être très, très, très connus, très courus. On va les demander dans toutes les cours. Enfin, ça va être un délire total. Ça va imprégner la France et puis d'autres pays en Europe. Et ça va être vraiment une grande, grande mode jusqu'au 17e, 18e siècle, on va dire. Puis après, ça va s'estomper avec l'arrivée des femmes qui vont avoir ces couleurs vocales, qui vont prendre le relais et donner, elles, les vraies sensations féminines. Une actrice, une chanteuse sera une femme.
Est-ce que Farinelli, le personnage du film, a vraiment existé dans
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je reprends Farinelli. Je ne sais plus où il est. Puisque c'était un des plus célèbres. Hein. Il a vraiment existé. Mm-hmm. Il y en a eu plusieurs. Je retrouverai le passage. Et puis si vous voulez en savoir plus sur Internet, il y a énormément de littérature autour des casserins. Mmh. C'est très intéressant, en fait. Alors, oui, c'est ça. Par exemple, attendez. Qui montait de véritables petits opéras, dont la musique était composée par le maître de musique et qui était représenté par les pensionnaires de l'orphelinat. C'est de cette façon que Leonardo, Léo, Porpora et Pergolèse ont débuté comme compositeurs et Farinelli, Caffarelli et Porporino comme chanteurs. Mmh. Il a réellement existé et ça a été un des plus célèbres. Ils avaient des voix absolument incroyables. Mmh. Donc voilà, c'est ce logiciel
de l'IRCAM
a créé cette voix qu'on entend, qui est une voix complètement inventée en fait. C'est le mélange, le mariage de ces deux chanteurs, cette soprano et ce contre-ténor, qui donne ce... Et c'est vrai qu'on est troublé parce que cette voix est très féminine et en même temps, elle est plus que ça. Mmh. Je trouve ça fascinant.
Oui, oui.
Donc, c'est un film de... que je n'ai pas vu.
Ah, moi j'ai vu quand c'est sorti, c'était génial.
Par contre, j'ai vu dans un feuilleton, je me souviens, cette année, je ne sais plus quand, un feuilleton historique, j'ai vu à un moment donné, dans une représentation, dans une petite cour, dans un château, il y a un castrat qui chante. Avec le chapeau, pleine plume. Mmh. Mais j'ai pas vu Farinelli, il castrato, de Gérard Corbiot. La direction musicale est de Christophe Rousset, et on s'écoutera un autre morceau, toujours aussi long, mais c'est les meilleurs, pour moi, dans la bande originale. De ce film. Est-ce que tu as, Yves, repéré donc qui était J.A. Haas?
J'ai regardé tout à l'heure, mais j'ai changé de sujet. Oui, j'ai regardé, c'est un compositeur. J'ai oublié. Excuse-moi, j'ai lu en travers, je ne m'attendais pas à tes questions. Est-ce que je peux retrouver facilement? Non. Bah, 1600 et quelques. Mais j'ai pas. Mais tu es sûr que c'est de Haas? Parce que.
Oui. Ah bon, c'est ce morceau-ci, Son quale nave s'agitata, c'est un air de Arbace de l'opéra Atarserse.
C'est quelqu'un qui s'appelle Johann Adolf Hasse.
Oui.
Il est né à Bergedorf le 23 mars 1699, 1700, quoi presque. Mort à Venise. Oui, le 16 décembre 1783, compositeur allemand de musique baroque, considéré comme l'un des maîtres de l'opéra seria italien du XVIIIe siècle. Il est né près de Hambourg et reçu... Je vais pas lire Wikipédia, les gens ils peuvent se connecter.
Si il y a un échange extrêmement fort entre plusieurs pays, France, Angleterre, Allemagne, entre les cours... etc. Les cours s'échangent, leurs artistes, les compositeurs, les chanteurs vont et viennent, on chante tout ce beau monde. C'est très... ils sont très à la mode déjà, très hype. Ce qui fait fureur dans un pays, tous les autres le veulent, ils veulent se l'arracher, ils se l'arrachent.
Mais c'est pas ça, c'est que c'est très beau, arrête.
Mais en même temps, j'ai pas dit, je le passe, je trouve ça très beau, j'adore ce disque. Bon. Non mais je veux dire par là qu'il y a déjà une espèce de fébrilité culturelle, il y a une émulsion culturelle, on veut, toutes les cours veulent ces chanteurs, ces compositeurs, tout ce spectacle, c'est génial quoi.
Tu te rends compte le silence absolu dans lequel ils baignent autrement, hein. S'il n'y a pas un orchestre pour jouer, c'est quoi la musique? Soit ils la pratiquent, et dans la noblesse ils sont nombreux à le pratiquer, soit c'est le néant quoi.
Bah, on se rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a pas Internet.
Voilà, il n'y a surtout pas de portable.
Il n'y a pas de portable.
J'assise bêtement.
Il n'y a rien. Donc si tu ne sais pas jouer d'un instrument, le reste du temps, c'est les oiseaux et le silence.
Il a entendu des relations amicales avec son contemporain, le compositeur Baldassare Galuppi, Il recommanda en 1744 le napolitain Niccolo Giomelli à l'Ospedale degli Incurabili de Venise. Et il a rencontré à Dresde Jean-Sébastien Bach en 1731. Et en 1768, Joseph Haydn lui envoie la partition de son Sabbat Mater et se déclare satisfait de la réponse élogieuse que lui adresse Haas. Il est désigné en même temps par Giovanni Mancini et par Léopold Mozart comme le père de la musique.
Alors moi j'aimerais savoir qui est Riccardo Brocchi, parce qu'après on va encore écouter un autre morceau d'un autre opéra qui s'appelle les Idaspe et l'air de Dario, mais pour l'instant on va s'écouter autre chose.
Be Sie sage ihm das Brave, späten Völker und Räume.
The Post, non-radio show la dissolution dans le bonheur musical. Juste, évidemment, c'est sur Radio Libertaire, nulle part ailleurs, évidemment.
89.4 et en DAB+ aussi.
Et en DAB+, c'est vrai, on allait oublier, vilains que nous sommes. Alors, et juste un petit point sur la castration, puisqu'on en parlait tout à l'heure au resto, tous les trois. Il s'agit vraiment d'une opération qui a été trouvée, je ne sais comment, je chercherai. C'est vrai que je n'ai pas eu la présence d'esprit de chercher comment ils avaient trouvé qu'il fallait faire l'ablation du canal spermatique, qui entraîne donc l'atrophie des testicules, hein, de tes petites couilles. Mmh. Mais à ne pas confondre avec ce qui se pratiquait précédemment, bien avant, depuis pas mal de temps déjà, sur les eunuques et les esclaves, qui était
l'ablation,
l'écrasement des testicules, l'ablation des testicules et du pénis, ce qui entraînait une surmortalité due à des hémorragies.
Et des infections.
Des infections et des hémorragies. Il y avait énormément de morts avec ces trois méthodes, en fait. Énormément de morts. Donc, je ne sais pas par quel miracle, des médecins ont trouvé cette histoire. Je chercherai, j'aurais dû chercher pour compléter le dossier de ce soir, ce qu'est le canal spermatique. De toute façon, ça se trouve là où vous savez. Donc, c'est pas du tout la même opération, hein, qu'on soit. Voilà. Et dans ce programme, en fait, j'ai voulu faire une variation, comme vous avez pu l'entendre depuis le début, sur des voix. Mmh. Sur des voix féminines, très peu de voix masculines il y a. Donc il y a eu Peter Murphy, je crois, ou, je ne sais plus si c'est son copain, Bauhaus, on entendra Christian Volz dans pas longtemps. Et à part ça, il n'y a que des femmes dans cette sélection. De ce soir, il y a eu au tout début Lisa Gérard avec Yael Candance, il y a eu Mona Soyeux avec Cass Product. Il y a eu ensuite Diamanda Galas, Bauhaus, là à l'instant un groupe allemand qui s'appelle ou qui s'appelait Orplid. Il y en aura d'autres par la suite. Et voilà, c'était un peu ça l'idée, d'avoir une forme d'étrangeté accompagnant il castrato. Ça te laisse sans voix, Guy.
Ouais,
c'est loin de toi, ça.
Oui, ah oui, j'ai...
Il castrato.
Je suis à 200 lieues, là, mais bon...
Oh, bah, il faut bien faire quelques émissions un peu différentes et s'intéresser à d'autres choses. Oui, et puis,
Ah non, mais j'écoute, hein, attentivement. Hein. Non, je ne sais pas... Ça a beau être à 200 lieues, ça m'intéresse. Voilà.
Donc... Tout ça, évidemment, n'existe plus dans le monde moderne. Hein. Je pense que nulle part, mais dans d'autres civilisations, dans d'autres pays, les femmes étaient interdites de représentation pendant des siècles, hein, que ce soit au Japon, en Chine et dans d'autres pays aussi, beaucoup d'autres pays, les femmes étaient interdites. Donc on trouvait des moyens de substitution, c'est-à-dire qu'on faisait représenter des hommes. qui voilà, jouaient des femmes, etc. Mais là, ça a été quand même poussé assez loin, puisque le délire, c'était sur la voix. Il faut quand même avouer que... Et quand on compare un peu les voix qu'on écoute, là, celles de ce logiciel mélangeant les voix des deux, de la soprano et du contre-ténor, c'est vrai qu'elle... faudrait écouter ça dans une continuité juste avec les musiques. Je pense qu'on aurait quelque chose d'assez... Et alors, j'ai mélangé ça avec... avec ça. Et ça, est-ce que vous devinez ce que c'est?
Oui, c'est un... ce sont des parasites. On dirait des parasites.
L'empreinte cosmologique de
non.
La création de l'univers.
Non, mais...
Non.
Il n'y a pas, en fait, non.
C'est les parasites qui brouillent l'écoute?
Ah, oui, ça serait pas mal, ça.
Pas du tout.
Est-ce que ce serait de l'électricité en mouvement?
Pas du tout, ce sont des insectes.
Ah.
Ah. Ça fait encore plus peur, je vais encore tomber dans les pommes.
C'est grouille. C'est le prochain plat, donc...
Oui, c'est le prochain plat qu'on va déguster, c'est celui-ci.
Bon.
Je ne sais pas pourquoi, il m'est venu à l'idée de mélanger ces voix féminines et un peu masculines et aussi entre les deux, avec l'idée de la ruche. Mm-hmm. Et en fait, ce sont des abeilles.
D'accord.
C'est Joe Collet qui a mis son micro dans une ruche. Et ça, c'est le bruit des abeilles dans une ruche.
Il n'a pas pu le récupérer.
Avec des gants.
Hein. Ah, avec des gants, oui.
Le micro était emmiellé.
Emmiellé,
tout à fait.
Opération réussie.
C'est très possible parce qu'un micro, ça a des trous. Ouais, ouais. Donc peut-être que s'il a mis le micro dans la ruche, les abeilles se sont mises à mettre du miel dans les trous. C'est possible. Hein.
Ils investissent. Ouais, ouais.
Ça, c'est une possibilité, mais l'histoire ne le dit pas.
Je ne sais pas pourquoi m'est venue l'idée de mélanger ces...
Donc tu nous fais une symphonie aux insectes, hein?
Voilà,
une microcosmos.
Une idée un peu tordue, mais... Alors...
Saint-François, il a prêché pour les insectes?
Certainement.
Il a prêché pour les poissons, mais pour les insectes, est-ce qu'il a pensé aux insectes? Bon, je vais me faire taper sur les doigts par l'épiscopat, donc
mais
j'arrête mon humour de merde.
Je ne sais pas. On va aller là maintenant vers une autre forme de chant.
Oui.
On va rester dans le passé, dans un peu plus tôt. On va rester. On va aller là au 15e siècle, à la Renaissance.
Je sais comment je dure, car mon dolent cœur font dire et pleurer n'ose ni dire ma douloureuse aventure. Ma dolente vie obscure, rien fort la mort ne désire. Je ne sais comment je dure. Et me faut, par couverture, chanter quand mon cœur soupire et faire semblant de rire. Mais Dieu sait ce que j'endure. Je ne sais comment je dure.
Espoir est déjà nu pour me
efforts a rendu si faible mon corps qu'il n'a ni vertu ni puissance. Il est semblable à l'un des morts tant que le voyons par dehors. On perd de lui la connaissance. Je n'ai plus que la triste voix de la
Radio Libertaire de Post Non Radio Show. Et nous sommes proches de l'implosion cosmique. À cette heure-ci. Alors, Christian Wolf à l'instant, musicien allemand, qui n'a pas fait corps que dans le pseudo-mystique, comme on vient de l'entendre. Et cette émission n'est pas un retour aux sources de la France catholique. Je rassure tous nos amis anarchistes, anarcho-libertaires qui nous écoutent. Je n'ai pas franchi le pas, je ne me suis pas converti à la secte Moon, Scientologue et autres mormonismes. C'est juste de la pure musicalité. Que venons-nous d'entendre juste avant? C'est un disque paru en 2002 par Chantal Grimm, qui est quelqu'un quand même d'assez extraordinaire, historienne de la chanson, qui était enseignante à la Sorbonne et qui animait des études d'atelier d'écriture. Chantal Grimm a fait plusieurs métiers avant de se consacrer uniquement à sa vocation de chanteuse et d'auteur-compositrice, auteur-compositeur. Elle était professeure de lettres et de musique, puis de psychologie sociale. Et en 1967, elle deviendra directrice du Café Théâtre des Deux Ponts dans l'île Saint-Louis, où elle décidera d'organiser des soirées chansons sous la forme de cabaret de minuit. C'est un disque qui s'appelle Les poétesses de la Renaissance, des textes, des chansons auxquelles tout n'a pas été retrouvé, les musiques entre autres étaient un peu perdues, donc elle les a remis en musique. Christine de Pizan, Marguerite de Navarre, Louise Labbé, Pernette du Guillet et Marie Stuart, qui étaient des femmes.
Pourquoi de Navarre?
Ou de Navarre. Il y a un « et » là, sur la pochette. Je sais pas, je te dirai. De Navarre, en fait, pardon. C'est des œuvres, des écrits féministes, en fait, avant l'heure. Des écrits, en fait, qui relatent la vie des femmes. Il y a un morceau que j'ai pas choisi, mais qui est extrêmement prenant, c'est Seulette, comme seule, Seulette, une ballade de Christine de Pizan. C'est une femme battue qui se plaint de son mari et de la pauvre vie qu'elle a. Et en fait, à cette époque, il y a une guerre entre les hommes et les femmes. Il y a une guerre d'intellectuels. Ce sont des femmes lettrées, intelligentes, qui ont eu une éducation, qui savent donc lire, chanter, composer, etc. Et qui s'opposent aux hommes qui les décrivent comme un peu des... comment on pourrait dire? Des
machos.
Ouais, mais ils se moquent des femmes en disant ce qui donnera un peu la pièce de Molière, là, les idiotes.
Les femmes savantes.
Les femmes savantes.
Les idiotes.
Les idiotes.
Stop.
Non, mais c'est un peu comme ça, donc, quand ils en parlent, quoi, parce que. Il y a vraiment une. Par exemple, il y a un épisode de la querelle, de cette querelle des femmes qui se situe à Lyon. C'est la querelle des amis. Bertrand de la Borderie ayant écrit L'ami de cour, dont l'héroïne est une courtisane cynique et dépravée. Marguerite de Navarre demande à Antoine Hérouet, néo-platonisme italien. Attendez, j'ai perdu le fil parce que c'est écrit en petit. Alors, demande à Antoine Hérouet d'y répondre. Celui-ci publie La parfaite amie, livre qui, inspiré du néoplatonisme italien, rencontre un grand succès. Il y propose une image idéalisée de la relation homme-femme, les nombreuses œuvres secondaires de la querelle des amis sont assemblées dans un recueil, le mépris de la cour. Il y a donc une guerre entre ces hommes qui se moquent de ces femmes intelligentes, etc., en y opposant donc des créatures de cour, des Rachida Dati de l'époque, quoi, en fait. Mmh. Et ces femmes, alors, y opposent autre chose. Elles leur disent non, on n'est pas comme ça, on n'a pas le pouvoir, mais nous ne sommes pas ces femmes, quoi. Mmh. Et tous se disent qu'en fait, c'est une pure merveille. C'est une pure merveille, vraiment. On s'écoutera tout à l'heure un autre morceau, même deux autres, un très court et un plus long, Les poétesses de la Renaissance, la querelle des femmes, misogynie et féminisme dans la littérature de la Renaissance. Et c'est un disque que j'ai trouvé chez Publico, en solde. Et oui, j'ai dû le payer 1 €.
Très bien.
Et je le trouve génial.
Oui.
Et je pense qu'il a toute sa place ce soir dans cette programmation. Allez. Un peu d'opéra.
Allons-y.
Ombra fedele Ancio, l'air de Dario de l'opéra Idaspe. Thank you. N'est-ce pas magnifique?
Oui, c'est vrai.
Très très beau.
Très très beau, très, vraiment très très beau.
Et si on était... vous étiez attentif, cette voix est plus que féminine. Elle là, c'est une voix de femme, mais il y a quelque chose d'autre. Ils ont essayé de traduire ce plus. Mais c'est très troublant. Je trouve cette voix troublante. C'est une voix de synthèse, hein, il faut le rappeler. En fait, avec deux voix. Deux vraies voix humaines assemblées par intelligence artificielle. Oui. Incroyable.
Par intelligence artificielle ou par le même système IRCAM des années
80? On peut dire que c'est une sorte d'intelligence artificielle, ce logiciel.
Oui.
Non, ça n'a rien à voir.
Attends. Est-ce que l'IRCAM n'est pas précurseur dans...
Oui, mais d'accord.
Dans
mais
une sophistication. Sophistication informatique. Maintenant, on appelle ça intelligence artificielle. Mais...
Non.
D'accord, ok, soyons des puristes.
Oui.
D'accord.
En tout cas, c'était superbe. C'était magnifique. Oui. C'est toujours extrait de Farinelli, hein, bien sûr.
Toujours Farinelli, il castrato.
D'accord.
Si on revenait après cette micro-dissolution cellulaire.
Radio Libertaire Classique. France Musique Libertaire.
Si nous revenions à du concret,
ça me semblait une musique tout à fait préparatrice de l'enterrement dont je vais parler maintenant.
Ah oui,
tu me laisses 5 minutes.
Je te laisse 5 minutes pour revenir à la réalité.
C'est Dominique, elle a 73 ans, elle agrippe son sac à main. Elle se faufile parmi les arrivants jeudi 11 janvier à la maison de la Mutualité à Paris. Elle est conviée à 10h à la réunion des actionnaires du groupe Casino, 7e dernier groupe de créanciers appelé à voter le plan de sauvegarde d'un groupe en grande difficulté financière. Elle est venue pour avoir plus d'informations. Dominique ne sait pas encore si elle va voter pour ou voter contre en arrivant, mais elle est sûre d'une chose, je ne vais rien récupérer du tout, souffle-t-elle. Quel que soit le résultat du vote, les actionnaires actuels seront fortement dilués, ils ne représenteront plus que 0,3%. Car ce vote formel, en plus de l'écrasement de la dette, entérine le sacrifice de porteurs d'actions, au premier rang desquels Jean-Charles Naouri, propriétaire et président de Casino, qui passe de 51% du capital à presque rien. Le lendemain, vendredi 12 janvier, le résultat final a été annoncé à l'ensemble des parties prenantes et voté à 98,87%. Cette précision des chiffres les honore beaucoup, en faveur du sauvetage d'urgence. Et par la suite, une audience du tribunal de commerce le 5 février, puis la fin de la procédure de sauvegarde accélérée le 25 février, déboucheront sur la prise de contrôle définitive, parce qu'il y a quand même un gagnant là-dedans, par le consortium de reprise mené par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, le milliardaire Marc Ladreille de la Charrière, qu'on a connu, je crois, au moment de l'affaire Fillon, et le groupe britannique Attestor. Et donc, boursicoteuse depuis 30 ans, Dominique savait qu'il y a des risques. Elle en veut surtout à Nicolas Miguet, l'éditeur de presse visé par une enquête préliminaire pour soupçon de manipulation du cours de bourse, sur les conseils duquel elle a acheté 1000 actions il y a 3 ans, autour de 30 euros. Ça fait 30 000 euros. Le cours clôturait jeudi à 0,7 euros. Elle n'épargne pas non plus M. Naouri, qui selon elle n'a pas dit que ça allait de pire en pire. D'ailleurs, il était absent, M. Naouri. Mais il est représenté par son directeur financier, David Lubeck, lors de ce rassemblement organisé et présidé par les administrateurs judiciaires. Le consortium de reprise était notamment représenté par Philippe Palazzi en tant que futur directeur général du groupe. Autrement dit, le groupe disparaît pas, il change de main, c'est tout. Un peu comme s'ils annonçaient le décès d'un proche de la famille, à sa famille plutôt, tous ont pris soin de peser leurs mots à chacun de leurs interventions face aux 75 actionnaires individuels qui, comme Dominique, s'étaient déplacés sur 150 inscrits. Je comprends la colère et la déception. Je partage la déception des actionnaires. Réunion pénible et sensible pour beaucoup d'entre vous, on en est conscient. Il s'agit d'un plan de sauvetage. Mais on parle bien de faillite d'un groupe et les actionnaires sont en première ligne, a fait comprendre Mme Hélène Bourboulou, une des administratives judiciaires. Devant un parterre essentiellement masculin et d'âge mûr, M. Lubek a résumé la chute du groupe, une trajectoire de désendettement et de cession enclenchée qui avait permis de donner de l'air à Casino, mais que le tsunami d'inflation est venu balayer. Tiens, monsieur maire, le maire, non, allô, non, il n'y a personne. Pour garder son équilibre financier, le groupe a alors cherché à préserver ses marges, mais au quatrième trimestre 2022, la concurrence s'est accrue et Casino s'est retrouvé avec des produits trop chers. Trop chers. J'ai bien lu. En 2023, le groupe tente de baisser les prix, mais c'est trop tard. S'ensuit une forte dégradation des marges, des résultats, de la trésorerie qui s'est accrue au fil de l'année. Et dans le même temps, d'importantes échéances financières se profilent fin 2023 et la hausse des taux d'intérêt et la dégradation de la situation rendent impossible le refinancement. Donc une opération de sauvetage d'urgence s'avère alors la seule solution. Et en sortant, Jean-Claude, 79 ans, est encore sonné. Bah, à cet âge, oui, on comprend. Venu de Maison Lafitte avec sa femme. Maison Lafitte, c'est une banlieue relativement chic. C'est là où est né mon père, je crois. Et avec sa femme, ils avaient racheté des titres en bourse il n'y a pas longtemps, quand elles valaient 4 euros. Et de sa poche, il exhibe un petit carré de carton grisâtre sur lequel il a griffonné les cours de bourse. Le plus haut depuis 10 ans, 97,53 euros. Depuis 5 ans, 50,08 euros. Et depuis un an, 12,17 euros. Il était encore très confiant. D'autant qu'à la dernière assemblée, le 10 mai 2023, tous les petits porteurs avaient reçu un bon d'achat de 40 euros, plus élevé que celui de l'année d'avant. Pour moi, ça voulait dire que le groupe n'allait pas si mal. Article de Cécile Prunhomme que je viens de lire intégralement au mot près. Le titre, c'était « Colère et déception lors du vote final des actionnaires de Casino ». Les porteurs de parts de groupe ont voté jeudi sur le plan de sauvegarde qui entérine l'écroulement de la valeur de leurs actifs.
Moi, j'ai envie de leur dire, messieurs, dames, ne désespérez pas, réarmez-vous. Réarmez-vous. Enfin, réinvestissez. Si c'est pas le casino, c'est Auchan. Si c'est pas Auchan, c'est Monoprix. Il y a Lidl, il y a Franprix, Carrefour.
Monoprix est dans le groupe Casino.
Oui. Un crotte. Oui. Moi qui achète toutes mes fringues à Monoprix.
Mais j'avais parlé de ce truc, c'était un article, je sais pas, il y a plusieurs semaines. Donc c'est pour ça que je donne la fin. Mais j'avais parlé également de Atos à un moment, parce qu'il s'occupait de la sécurité informatique des Jeux Olympiques notamment, parce que normalement ça devait aller à un groupe chinois, et donc les Français avaient dit « nous on a Atos ». Effectivement, c'est un groupe spécialisé dans la sécurité informatique, mais il se trouve qu'il se rapproche dangereusement du précipice. Je ne sais pas si j'ai le temps et si vous avez envie d'entendre ça.
Bien sûr que tu as le temps.
C'est un groupe qui dit le titre du Monde. Le premier article, c'était du 13 janvier.
Sur Prédélique, là.
Là, c'est un article
non, sur Atos.
Sur Atos.
Parce que sur Prédélique, il y a des repreneurs. Il n'y a pas de problème derrière.
Oui, il n'y a pas de problème. J'ai cité Marc Ladret de La Charrière, Kretinsky, le milliardaire tchèque. Donc,
Rappelle-nous vite fait, en deux mots, c'est qui Atos ? C'est quoi ?
Ben, c'est un gros groupe qui comprend notamment un truc une division de sécurité informatique. Et comme elle est très pointue, les Jeux Olympiques lui avaient été confiés au niveau de l'informatique. Et il se trouve que la situation inquiète de plus en plus. À 6 mois des Jeux Olympiques, donc c'est le partenaire technologique du Comité international olympique. À ce titre, prestataire informatique de Paris 2024, qui doit trouver un accord avec ses banques s'il ne veut pas que les 5 milliards d'euros de dette, c'est-à-dire 2,3 milliards d'euros nets après prise en compte de la trésorerie, le conduisent à la faillite. Environ la moitié de ces 5 milliards doit être remboursée en 2025. Atos n'a pas cette somme, et il faut donc renégocier cette dette avec ses 22 banques.
Alors, 22 banques.
Ouais.
Dis donc, ni plus ni moins.
Super.
Engagé il y a plusieurs mois, les négociations patinent. Pour se faire aider, M. Jean-Pierre Mustier, le président d'Atos, a pris contact avec LR Bourboulou, dont on vient de parler dans l'article précédent.
Ah, Mme Bourboulou.
Administratif judiciaire qui a travaillé sur les dossiers financiers chauds comme Casino et Orpea, a révélé le Figaro, dimanche 14 janvier. Selon nos informations, Atos réfléchit à l'ouverture d'un mandat ad hoc, une procédure préventive destinée aux entreprises qui ne sont pas en cessation de paiement. Dans un communiqué publié le 15 janvier, le groupe a assuré qu'il n'a pas déposé de demande de désignation d'un mandataire ad hoc ou d'ouverture d'une procédure de conciliation, ce qui ne l'empêche pas de le faire dans les prochaines heures. Signe d'urgence, Atos a annoncé lundi le départ précipité de son directeur général, Yves Bernaert, en poste depuis seulement 4 mois et dont le profil ne correspondait pas à la situation de l'entreprise.
Il s'est barré vite fait en avion aux Bahamas.
Il ne correspondait pas au profil, pas le profil.
Il s'est barré vite fait.
Il est remplacé par son directeur financier, Paul Salet, ce qui confirme bien la volonté du groupe de se concentrer sur les discussions avec ses banques. Une réunion est prévue cette semaine. Alors c'est une dernière chance, il faut aller vite. Fin novembre 2023, l'agence de notation S&P a abaissé la note de BB à BB-, menaçant d'aller un cran plus bas dans les prochaines semaines. Son nouvel avis est attendu fin janvier. Une dégradation supplémentaire enverrait Atos dans la catégorie hautement spéculative, ce qui pourrait provoquer la perte de plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Certains clients bénéficient d'une clause qui permet de transférer leur contrat vers un autre sous-traitant si le fournisseur officiel est trop mal noté. Et lundi, alors que des rumeurs commençaient à circuler sur la dégradation de ses résultats, Atos a assuré que ses lignes d'activité atteindront leurs objectifs financiers en 2023 pour l'année en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle. Mais à quoi ressemblera 2024 ? Nous y sommes. Donc initialement, Atos espérait un accord sur sa dette avant fin 2023. La vente programmée de Tech Foundation, les services informatiques classiques à Daniel Kretinsky, toujours lui, devait débloquer la situation. Mais les discussions avec le milliardaire tchèque traînent en longueur et le fil entre les deux parties est de plus en plus fragile. Arrivé aux commandes en octobre 2023, M. Mustier temporise. Le retour d'Airbus dans le dossier, de nouveau intéressé par les activités cyber et supercalculateurs d'Atos, rebat les cartes. Le président d'Atos en a profité pour relever les prétentions de son groupe auprès de Daniel Kretinsky, espérant récupérer plusieurs centaines de millions d'euros supplémentaires. Mais l'homme d'affaires tchèque n'est pas prêt à faire un tel effort. Seul candidat intéressé à la reprise de Tech Foundation, il sait qu'il dispose d'un pouvoir réel de négociation. Alors il y a eu une réunion présentée comme celle de la dernière chance par un proche des discussions qui doit se tenir cette semaine entre Pierre Mustier et Daniel Kretinsky. Qu'adviendra-t-il en cas d'échec ? Les représentants du personnel de Tech Foundation, qui compte environ 50 000 salariés, s'inquiètent. Le groupe serait-il prêt à faire des efforts financiers pour relancer une activité dont il souhaitait absolument se débarrasser, car jugé sur le déclin ? Et pour ne rien arranger, ces négociations se font sous la pression de certains actionnaires. Opposé à la vente de Tech Foundation, le fonds Alix AM a assigné Atos à l'automne 2023 devant le tribunal de commerce pour demander une expertise de gestion.
Waouh ! Quelle embrouille !
En fonction des résultats, le fonds menace de poursuivre les administrateurs en responsabilité individuelle. Il a chiffré le préjudice potentiel à 1 milliard d'euros. Une audience est prévue devant le tribunal de commerce de Pontoise dans le Val d'Oise mercredi 17 janvier, donc c'était il y a 2 jours.
Oui.
Monsieur Mustier connaît ce risque. Ancien administrateur d'Alitalia, il a été poursuivi durant de longs mois avec 20 autres dirigeants devant un tribunal italien à la suite de la faillite de la compagnie aérienne au milieu des années 2010. La procédure s'est depuis éteinte. Si le mandat ad hoc ne suffit pas, Atos prévient qu'une procédure collective en conciliation sera nécessaire pour pousser à un accord avec les créanciers, comme cela avait été le cas pour Casino. Ça promet. Pour les actionnaires du groupe d'informatique, les conséquences seraient alors aussi douloureuses que celles récemment subies par ceux du distributeur, qui ont tout perdu dans l'affaire. Entrée en force au capital d'Atos en 2023 avec 11,4% de capital, ce qui en fait le premier actionnaire, David Layani, dont j'avais lu, je crois que c'est un proche de Macron, le fondateur de la société OnePoint, risquerait alors de perdre sa mise, estimée à environ 70 millions d'euros. Lundi, en début de matinée, l'action d'Atos plongeait de 15% après avoir chuté de 14,67%. Et le 12 janvier, alors que circulaient des rumeurs de procédures collectives et de dégradation des résultats. Alors voilà une question qui aurait pu être posée à Macron. Est-ce que l'État peut intervenir, ne serait-ce que parce que Atos s'occupe de la sécurité des Jeux Olympiques, et c'est bien l'État qui a décidé de faire ces Jeux Olympiques, donc il a une petite responsabilité, et il a su coordonner des équipes pour arriver à construire dans les temps, ce qui est remarquable, des logements pour les équipes olympiques.
Ouais, c'est ce qu'il a dit, hein, que ça allait être fait, que ça allait être fidélisé.
Dans 93, mais... Il y a différents problèmes pour Atos, il y a toutes les mesures. Bon, le comité olympique, il vient quand même avec une entreprise qui filme tout. Mais pour ce qui est des mesures et des risques d'emmerdement par les hackers russes, notamment comme c'est apparu là récemment, j'ai lu un article, je ne sais plus quel jour, c'est hier ou avant-hier, sur le fait qu'ils avaient attaqué des trucs en France. On peut s'attendre quand même. Donc, on a besoin d'un groupe informatique pour ce truc, c'est évident. Donc, cette solution sûre s'avère savonneuse, disons.
Mais comme dirait le prince, tout va bien en France.
Ben, on n'en parle pas.
Alors, il a dit que tout allait bien en France.
Mais c'est vrai que ce n'est pas du ressort du président de la République, simplement.
Il aurait pu avoir le nez creux, à défaut de ça.
Un ministre de l'économie, puisque c'est toujours le même, puisqu'il a déclaré de toute manière qu'il resterait le même avant même que les autres ministres soient nommés par Attal. Et il avait dit qu'il restait, il est passé par-dessus, quoi. C'est un truc invraisemblable, comme Darmanin, d'ailleurs. Au bon niveau du droit et des institutions, c'est ahurissant. Ça semble gêner personne, c'est extrêmement à la fois drôle et choquant, quoi. Je suis en ligne directe avec le président, donc c'est moi pour rester. Bon, bref. Mais peut-être que ce pouvoir pourrait servir à quelque chose.
Alors, disons, en parlant de Prisionic... Tout à l'heure.
Monoprix.
Bon, moi, c'est pareil, tout ça, mais bon. Tu as parlé d'un personnage qui s'appelle Minguet. C'est ça, hein? Ça
te dit quelque chose, hein? Nicolas Minguet.
Ça te dit quelque chose? Non.
C'est un escroc.
Ça fait une trentaine d'années qu'à chaque fois qu'il y a des présidentielles, il est candidat, lui.
Ah, oui, oui.
Et
oui,
il a des superbes affiches bleu-blanc-rouge.
Tout à fait.
Bruno Minguet,
Nicolas Minguet.
Ah oui, je dis.
Nicolas Minguet.
Nicolas.
Qui est un escroc notoire.
Oui, voilà. Donc il est là-dedans. Il est dans le. J'ai entendu son nom là. Je dis tiens.
Ah oui, c'est ça. C'est Dominique qui savait qu'il y avait. Alors veut surtout à Nicolas Minguet, l'éditeur de presse visé par une enquête préliminaire pour soupçon de manipulation des cours de bourse. Conseils duquel elle a acheté 1000 actions il y a 3 ans autour de 30 euros. Ouais.
Qui ne fait plus parler de lui toutes ces dernières années, mais qui apparemment continue sa petite vie tranquillou
d'escroc.
Ouais, j'espère qu'il ne va pas nous attaquer.
Non, mais bon.
D'escroc, ouais, exactement.
Il le sait.
Nicolas Minguet, si pour certains vous vous rappelez, il y avait des affiches.
Des grandes affiches.
Alors ça remonte à une quinzaine d'années, on va dire.
Je dirais même une dizaine d'années, je pense. Oui.
On le voyait encore.
Oui.
Il a été présidentiel.
Oui, tout à fait.
Non. Personnage extrêmement controversé. Même dans le privé. Bref, je ne vais pas aller sur ce terrain ultra glissant.
Non.
On n'ira pas, mais bon. Donc, nous voilà bien arrangés là pour ces jeux. On a cette boîte. On aurait dû faire confiance aux Chinois.
C'était Alibaba qui était pressenti au départ par le comité olympique.
Ça pue la catastrophe.
Espérons que ça va se remettre, mais c'est quand même très inquiétant qu'un groupe si important se révèle aussi fragile à un moment justement on a besoin de lui. Donc,
ce qui est extrêmement inquiétant, c'est d'avoir vu ce qu'on a vu mardi et d'avoir cette espèce de ripollinage. cette espèce de peinture du réel où tout est merveilleux, et tout brille et tout sous les ors ORS de la République avec le prince Playboy. Et tout ça n'est pas sérieusement... alors, sans parler des journalistes qui bouffonnent et qui mieux mieux. C'est une mascarade de, je pense, là qu'on est... comment dire ? Est-ce qu'on essaye de nous hypnotiser ou de... On ne peut plus être hypnotisable, c'est plus possible. Mais tout du moins de nous entourlouper. Il y a une espèce de... comme, tu sais, d'espèce de tour de magie qu'on essaierait de faire et qui, au final, fonctionne pas vraiment, quoi.
Ils se rendent pas compte qu'ils sont grossiers, qu'ils sont...
C'était d'un grotesque absolu.
Il a ripolliné tout ça.
C'est du ripollinage, on repeint tout. On repeint tout aux couleurs du merveilleux. Tout se passe formidablement bien.
Dis donc, dis donc.
Ouais, comme tu dis, dis donc, dis donc.
C'est costaud.
Oh, sleep on a pillow. Radio Libertaire, The Postman Radio Show, avant que nous nous effondrions sur nous-mêmes comme des étoiles naines sous leur propre poids, il reste encore un peu d'émission.
Oui, je voudrais juste te dire, l'article
oui,
sur Atos que j'ai lu...
Atos.
...est extrait du Monde du mardi 16 janvier.
Et il est signé.
Et c'est un écrit de M. Olivier Pinault. Et quant à l'article de Casino, mais je crois que j'avais lu, c'est Mme Prudhomme, Mme Cécile Prudhomme.
Non, tu ne l'avais pas dit. Je crois que tu ne l'avais pas dit.
Alors, l'article de Casino, c'est dans le Monde du 13 janvier... Parce que bon, voilà, j'avais omis de citer les auteurs que je pille allègrement, donc c'est la moindre des choses de les citer.
Ah oui, non, tu ne les pilles pas, tu les cites. Et merci à eux qui nous enchantent avec les méandres de la vie économico-politique de notre pays,
oui.
qui nous tient si à cœur.
Ce sont des bons journaux. De très très bons journaux.
Un cœur en un seul mot.
Oui. À cœur.
À cœur, oui.
À cœur en un seul mot. C'est pas moi qui irai hacker les JO. Hein. Ils sont déjà mal partis.
Voilà. Ouais. C'est dans 6 mois. Hein. C'est court, 6 mois. C'est
et
court.
Et Anne Hidalgo nous a redit.
Moi, alors, je me baignerai dans la Seine. Hein. Bien sûr, je me baignerai dans la Seine.
Encore dans une intervention d'un grotesque sans nom. Anne Hidalgo a dit : j'ai préparé mon maillot de bain, on va se baigner. Bah vas-y, connasse.
Oh.
Vas-y, connasse.
Oh, arrête.
Non, mais c'est vrai, ça fait. Attends. Jacques Chirac, en 1723,
oui, avait déjà dit, oui.
Nous disait déjà, on va se baigner dans... Oui. À part des gens qui se suicident et qui se mettent dans la Seine, il n'y a personne d'autre qui y va. Hein.
Non, mais il y a le choix entre se baigner dans la Seine ou se baigner dans de l'eau en bouteille. Bon, alors tu fais quoi? Tu préfères...
Je préfère l'eau en bouteille.
Malgré les nanoparticules de plastique?
Je préfère ça à la Seine qui doit être...
Tu sais qu'il y en a 240 000 par litre.
Il faut rentrer dans la bouteille aussi, quand même.
Tu verses des bouteilles d'eau dans la baignoire, comme d'autres versent du lait dans la baignoire pour avoir une belle peau, etc.
Ça c'était Cléopâtre.
Exact.
Du lait de jument.
Ouais. Non, de Oliveira aussi, non?
Attends. Ouais, moi, j'attends. J'espère vivre jusqu'en 2025... pour voir la mère Hidalgo en maillot de bain se jeter dans la Seine. Elle l'a encore dit. Elle a encore fait sa bouffonne.
Oh.
Non, mais à un moment donné, quand t'es pas sûr de ta com, tu la fais pas, ta com. Mais... Je veux dire, si ces gens s'épargnaient tout ce ridicule, on serait même pas là. On parlerait d'autre chose.
C'est ce que je souhaitais faire en parlant de l'eau en bouteille polluée par les nanoparticules de plastique, article du 11 janvier.
Mais on sait que tu votes pour Anne Hidalgo.
Tu sais pas pour qui je vote.
Mais c'est vrai que
le vote est secret. Ceci dit, je respecte parfaitement Anne Hidalgo parce qu'elle s'est révélée en avance sur un tas de sujets.
Oui, bien sûr. En 2025, tu vas aller te baigner avec elle.
En 2025, nous verrons.
Tu vas aller. C'est dans
c'est
pas
même
longtemps.
Pas sûr qu'elle se présente, donc arrête.
C'est dans un an à peine.
Tu pourras te voter pour Dati si tu as envie.
Rachida, le force de respect.
Ah, bien sûr.
Autant d'opportunisme.
Oui.
Autant de mais de je n'en ai rien à foutre de rien.
Oui.
Alors là, ça force.
Mais c'est d'enrayer le parquet. Hein.
Non, elle troue le parquet.
Oui.
Oh, dis-leur, oui.
Il n'y a plus de parquet.
Et Yves va être le baigneur témoin.
Oui.
Juste avant les Jeux.
Je l'emmène. Non, c'est en 2025. C'est après les Jeux.
Ah bon.
Non, mais quand... Enfin, pourquoi ces gens disent des nullités pareilles?
De quoi? De quoi tu parles?
En 1723, comme je l'ai dit, Jacques Chirac l'avait déjà dit, on se baignera dans la Seine.
Oui.
Depuis, personne s'y est baigné à part les gens qui se suicident et qui tombent à l'eau parce qu'on les a tués et hop, on les balance.
Mais sinon, la scène apparemment n'attire pas grand monde.
Non, bon, non. Pour reprendre un peu mon article sur les 240 000 particules par litre d'eau testée, donc.
Je préfère boire de la bière en bouteille.
Les résultats.
En canette de métal.
Ils sont issus d'une étude américaine, pas française, du mardi 9 janvier dans une revue dans le titre anglais et Proceeding of the National Academy of Sciences.
Ah, bah super.
Les auteurs. Il détaille une nouvelle méthode optique de détection et de caractérisation des micro et nanoparticules de plastique et la mettre en œuvre sur trois marques d'eau conditionnées. C'est pas très facile parce que c'est des particules très fines. Donc on comprend qu'il y a des besoins d'analyse. Ces résultats sont d'autant plus importants que plus elles sont petites, plus ces particules sont susceptibles de traverser les barrières biologiques, donc d'entrer dans la circulation sanguine et d'être en définitive distribuées dans les organes, y compris le cerveau. Les risques sanitaires pour la population humaine demeurent absolument méconnus, principalement en raison de peu d'études épidémiologiques. Les connaissances manquent, beaucoup sont en cours d'acquisition, détaille le toxicologue Nicolas Cabaton, chercheur à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRE, quoi, à l'unité Toxalim de Toulouse. Mais on peut déjà redouter que les substances toxiques transportées par ces micro- et nanoparticules comme les bisphénols n'ajoutent des effets délétères à la toxicité intrinsèque des fragments de plastique eux-mêmes. Alors, il y a eu des études sur les animaux de laboratoire où des études cellulaires suggèrent des effets nocifs sur le métabolisme, le développement cérébral, les dégâts sur le matériel génétique. Justement, j'ai entendu parler récemment de réarmer la natalité. Ou encore la respiration cellulaire. Je ne sais pas s'il pensait à ça, Macron, mais moi j'ai pensé à ça quand il en a parlé. Mais on ne doit pas penser à la même chose. Les travaux français publiés en 2023, menés par Elora Fournier à l'Université Clermont-Auvergne par l'INRE et Muriel Mercier-Bonin de l'INRE également, ont mis en évidence pour la première fois des effets néfastes de l'exposition répétée à des microparticules de plastique sur la flore intestinale. Ils ont reproduit l'écosystème intestinal humain, soumis le microbiote d'adultes et d'enfants à une exposition quotidienne à des microparticules de polyéthylène, et ils ont observé un bouleversement de la composition du microbiote avec une augmentation de l'abondance de bactéries pathobiontes, c'est des espèces potentiellement pathogènes, et une diminution d'espèces bénéfiques. Si les conséquences cliniques de telles observations demeurent imparfaitement évaluées, plutôt, la contamination généralisée de la population humaine ne fait guère de doute, notamment par le biais de la chaîne alimentaire et de l'eau de boisson. En 2022, les travaux italiens ont ainsi montré que le lait maternel de la plupart des femmes allaitantes était contaminé, notamment par les microparticules de polyéthylène, de polytéraphthalate d'éthylène, le PET, et de polychlorure de vinyle, PVC, des microparticules détectées s'échelonnant de 2 à 12 micromètres. À moins que ça soit micron, ça. Non, c'est micromètre. La même année, une étude néerlandaise estimait pour la première fois, sur la base d'un échantillon d'une vingtaine de personnes issues de la population générale, que la quantité de plastique circulant dans le sang humain était de l'ordre de 1,6 mg par litre. Cette estimation n'était fondée que sur l'analyse des particules de taille supérieure à 700 nanomètres. Il est important de mettre au point de nouvelles méthodes analytiques capables de détecter dans le sang des organes ou d'autres matrices des nanoparticules de plastique, comme ces nouveaux travaux semblent être en mesure de le faire dans l'eau, dit Mme Bercier-Bonin. Ça permettrait de lever un verrou fondamental dans la connaissance de l'étendue de la contamination des milieux, des écosystèmes et de la chaîne alimentaire et des organismes. Pour l'heure, dans l'eau des bouteilles des trois marques testées, les chercheurs ont mis en évidence 7 types de matières plastiques, en particulier du polyamide, du polypropylène, du polyéthylène, du PVC ou encore du PET. Du PET, donc. Les deux premières marques montrent une répartition comparable des plastiques identifiés, le polyamide représentant 70 à 80% de la masse de plastique retrouvée dans l'eau. Le même plastique ne représente que 17% de la masse de plastique retrouvée dans la troisième marque, dominée par le PET à 63%. La répartition de ces différents plastiques dans les bouteilles donne des indices sur les sources de contamination. Selon les chercheurs, la contamination au PET pourrait provenir des bouteilles puisqu'elles sont constituées de ce matériau. petite incise, j'ai rencontré dans les années 81, après 81, une biologiste dont je peux dire qu'elle s'appelle Joëlle Le G, qui m'a prévenu à l'époque, il s'agit de 1981, elle était biologiste simplement, que boire de l'eau en bouteille, évidemment c'était pratique, mais que ça finirait par poser un problème parce que le plastique des bouteilles migrait dans l'eau. Je sais donc ça depuis 40 ans. Donc je suis étonné que ça sorte seulement maintenant, mais c'est comme ça. La répartition, ça j'en ai parlé,
les nanoparticules,
la répartition de ces différents alors ça j'en ai parlé d'autres qu'on ok, les nano et microparticules de PVC et de polystyrène sont plus abondantes à mesure que leur taille diminue. C'est une caractéristique unique qui les distingue des autres fragments retrouvés, une spécificité qui pourrait indiquer une source de contamination en amont du traitement et de l'embouteillage de l'eau selon les chercheurs, c'est-à-dire une présence sans doute c'est sans doute largement ubiquitaire dans l'environnement. Alors, ubiquitaire, ça veut dire que c'est partout. Largement ubiquitaire,
partout.
Si ça veut rétrécir l'espace partout ou si ça veut l'augmenter, mais j'aurais tendance à penser que ça veut plutôt le rétrécir. Et sans doute, ça marque la marque du doute sur le fait que ce soit partout. J'adore cet article. Mais je plaisante, mais l'article m'a beaucoup intéressé personnellement. Il est de Stéphane Foucard, donc dans Le Monde du jeudi en janvier. Et il a un pendant dans le Canard enchaîné qui suit, c'est-à-dire du 17 janvier, où il y a un grand article sur flotte en bouteille, du plastique jusqu'à plus soif, des scientifiques s'inquiètent de la présence des polluants et le lobby des minéraliers reste sec, disent-ils.
J'aurais une question à te poser, Yves. Moi, chez moi, j'ai des bouteilles en plastique et je m'en sers pour... je mets de l'eau de Paris dedans. Et je m'en sers, pour...
L'eau de Paris d'Anne Hidalgo
pour arroser les plantes,
neutralise...
Il ne faut pas la boire.
Ah.
L'eau de Paris dans les bouteilles en plastique neutralise les nanoparticules de plastique.
Arrête.
Je te rassure. Et j'aurais envie de dire, mais bienvenue dans ce monde ultra merveilleux. En résumé...
Dans le Canard enchaîné, ils disent que cette contamination au plastique serait jusqu'à 100 fois plus importante que ce que les études avaient révélé jusqu'alors. Donc c'est une maxi-découverte, dit le Canard, qui n'a pas tout à fait le même ton que Le Monde.
Mais en même temps, on vit avec, ça fait 40 ans que tu bois de l'eau en bouteille, t'es pas mort.
Pas forcément.
N'es pas mort.
Attends. Pas forcément.
Tu n'es pas forcément mort.
C'est pas le problème d'être mort ou pas. C'est le problème
d'être malade.
Sur la fertilité, sur les malformations pour les enfants, sur un tas de domaines comme ça, sur lesquels on ignore tout.
Pourquoi pas remettre des bouteilles en verre, comme on le faisait à l'époque, quelques années.
Voilà, oui.
Ça coûte plus cher, d'accord, ok, très bien, mais au moins ça sera...
Un système de
consigne.
De consigne, oui.
Ben oui, bien sûr.
Oui.
Je pense que ça va arriver bientôt, ça. Ça va arriver bientôt,
alors,
je pense.
Les géants de l'agroalimentaire, eux, ils ne voient pas les choses de cette façon-là. Alors que les chercheurs expliquent la présence d'une partie de ces contaminants par l'emballage lui-même ou les manipulations qu'ils précèdent, détérioration des bouteilles, abrasion du plastique lors de l'utilisation du bouchon ou particules de filtre plastique utilisées avant l'embouteillage, ces hypothèses sont balayées par les géants de l'agroalimentaire qui accusent la pollution globale. Et donc, les entreprises comme Evian, Volvic, Badoit, La Salvetta, Nestlé, Water, Perrier, Vittel, Contrex, etc., répondent par l'entreprise de leur syndicat. On voit qu'ils sont unis. Certains feraient bien de s'inspirer. Ils répondent par l'entremise de leur syndicat, la Maison des Eaux Minérales Naturelles. Les nano et micro plastiques sont omniprésents dans l'environnement. Ils proviennent principalement du lavage des textiles.
Oui.
Bon. De l'usure des semelles de chaussures, des pneus de voiture. Le Canard enchaîne de tout sauf des bouteilles en plastique, bien sûr. La présence est-elle inquiétante pour la santé? Chez les animaux, rares études qui ont montré la présence de dysfonctionnements intestinaux à la suite de l'ingestion des microplastiques. Encore plus petits, les nanoplastiques susceptible de rentrer dans l'ensemble des... Bon, ça, on en a parlé tout à l'heure. C'était mentionné, ces problèmes de microplastiques qui traversent la barrière intestinale, c'était mentionné dans un rapport parlementaire de 2020. Bon, il n'y a pas d'études en nombre, il est trop difficile de caractériser le danger pour la santé humaine, indique Guillaume Duflot, directeur de recherche à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES. Voilà, la réglementation est aussi à la traîne. Aucune directive n'impose à ce jour de contrôler micro ou nanoplastiques. Les autorités sanitaires françaises sont tout juste à réfléchir, pardon, à définir une méthodologie de contrôle. L'Association française de normalisation, la FNOR, autrement dit, à la fin décembre 2023, a publié une norme pour étudier et comparer les microplastiques dans l'eau. Le projet de faire figurer les microplastiques sur une liste de vigilance est évoqué par le ministère de la Santé, sans toutefois de date communiquée. Alors, la France s'est normalement donné pour objectif de réduire de 50% le nombre de bouteilles en plastique d'ici 2030. Mmh. Des signaux récents montrent qu'on n'en prend pas le chemin. Selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, le nombre de bouteilles en plastique a augmenté de 4% en 2022, passant de 347 100 tonnes en 2021 à 360 700 tonnes. Par ailleurs, les Jeux Olympiques, qui avaient promis d'être zéro plastique, devraient autoriser cet été Coca-Cola, je ne me rappelle plus ce que c'est, Coca-Cola, à distribuer des bouteilles pour les 4 millions de boissons servies aux athlètes et arbitres. Ça, c'est trouvé dans l'équipe du 1er avril 2024. Alors, comme c'est le 2023, comme c'est le 1er avril 2023, je me demande si c'est une blague ou si c'est vrai, mais c'est ce que je lis dans le Canard Enchaîné, donc daté du mercredi 17 janvier. Et pour finir...
Oui, finissons-en.
De quoi douter des efforts réels de la France, première exportatrice mondiale d'eau minérale, dans la lutte contre les emballages plastiques. Point d'interrogation. Article de Yann Voldoir.
Oui, mais le problème, c'est qu'on ne trouve pas dans le commerce des bouteilles en verre d'eau minérale. On ne trouve pas. C'est scandaleux. C'est scandaleux.
Écoute, Serge.
L'eau du robinet à Paris, elle est parfaitement potable.
Oui, mais...
Tu vas aller remplir tes cruches à la Seine.
Elle est contrôlée. Il y a des trucs qui sont maintenant partout, c'est les PFAS. On en trouve jusqu'en Auvergne. Bon, l'Auvergne n'est pas très loin, donc elle est proche d'usines qui fabriquaient des choses du genre poêle Tefal ou des skis Rossignol, enfin pas forcément Rossignol, mais le phare des skis ou des choses comme ça qui font glisser. Il paraît que c'est utilisé dans les cathéters, par exemple, en médecine. Donc, ils cherchent à remplacer ça par des articles plutôt avec du fluor, je crois. Parce que le fluor, il pose moins de problèmes à l'organisme, disons. Mais l'eau du robinet, ça reste une solution pour l'instant.
Voilà, tu vas aller remplir tes cruches sur les bords de Seine.
Moi, personnellement, j'ai acheté de l'eau en bouteille depuis très longtemps, parce que ces mêmes biologistes qui me disaient ça me racontaient également comment ils étaient spécialisés dans les stations d'épuration. Et donc, ils expliquaient comment ils arrivaient à diminuer le nombre de bactéries du genre Escherichia coli.